Le devisement du monde, livre 2, chapitre 61. De la ville de Xijianfu. Xijianfu, Qingqianfu, est une ville dans la province de Manji où l'on fait beaucoup d'ouvrages d'or et de soie. Les chrétiens nestoriens y ont des églises qui a fait bâtir un nommé Mazaré, nestorien, qui commandait en cette ville-là de la part du Grand Khan vers l'an de notre Seigneur 1288. Chapitre 62. De la ville de Xinjingui et du massacre de ses habitants. Après être sorti de la ville de Xinjiangfu, à trois journées, on vient à la ville de Xinjingui, Changqiu, et l'on trouve sur la route beaucoup de villes et de villages où il se fait un grand trafic de toutes sortes de marchandises et où les habitants s'adonnent à toutes sortes d'arts. La ville de Xinjingui est grande et riche et abondante en tout ce qui est nécessaire à la vie. Lorsque Bayam, général des Tartares, assiégeait la province de Manji, il envoya de certains chrétiens que l'on appelait Alain contre cette ville, qu'ils assiégèrent si vivement que les habitants furent obligés de se rendre. Étant entrés dans la ville, ils ne firent mal à personne parce que tout le monde se soumit de bon cœur au Grand Khan. Comme ils trouvèrent en cette ville de fort bon vin et en quantité, ils burent si copieusement qu'ils s'enivrèrent et, accablés de sommeil, ils ne songèrent point à poser des gardes pendant la nuit. Ce qu'ayant remarqué les habitants, qui les avaient reçus d'abord de bonne volonté, ils se jetèrent sur eux pendant qu'ils dormaient et les tuèrent tous sans en excepter un seul. Bayam, ayant appris cette nouvelle, envoya contre la ville une autre armée qui, s'emparant bientôt de ses défenses, mit à mort sans miséricorde tous les habitants pour venger les victimes. Chapitre 63. De la ville de Xingui. Xingui, sous Chiu, est une belle et grande ville qui peut avoir 60 000 de circuit. Elle est fort peuplée, de même que toute la province de Manji. Mais les habitants ne sont pas belliqueux. Ils sont bons marchands et bons artisans. Il y a beaucoup de médecins et de philosophes. Il y a, dans la ville de Xingui, des ponts de pierre dont les arches sont si hautes que les plus grands navires, sans baisser leurs mâts, peuvent passer dessous. Il croît en cette province de la rhubarbe et du gingembre en quantité. Cette ville a, sous sa dépendance, 16 autres villes fort marchandes. Les habitants sont habillés d'étoffes de soie, car l'on y fait de ces étoffes en quantité. Le nom de Xingui signifie en leur langue « ville de la terre », de même qu'ils ont une autre ville nommée Quincy, qui veut dire « ville du ciel ». Qui sont deux villes très remarquables dans ces pays orientaux. Chapitre 64. De la noble ville de Quincy. À cinq journées de la ville de Xingui, il y a une autre ville remarquable nommée Quincy, qui veut dire « ville du ciel ». Elle est une des plus grandes du monde. Moi, Marco, j'ai été dans cette ville et l'ai examiné diligemment en remarquant les coutumes et les mœurs du peuple. C'est pourquoi je rapporterai en peu de mots ce que j'ai vu et remarqué. Cette ville a 100 000 de circuit. Elle a 12 000 ponts de pierre dont les arches sont si hautes que les plus grands vaisseaux peuvent passer dessous sans baisser leurs mâts. La ville est bâtie dans un marais, à peu près comme Venise, en sorte que, sans le grand nombre de ses ponts, il serait impossible d'aller d'une rue à l'autre. Il y a des artisans et des négociants en si grand nombre que cela paraîtrait incroyable si je le rapportais. Les maîtres ne travaillent point, mais ils ont des garçons pour cela. Les habitants de cette ville vivent dans les délices, mais surtout les femmes, ce qui les fait paraître plus belles qu'ailleurs. Du côté du midi, il y a un grand lac dans l'intérieur des murailles de la ville, qui a 30 000 de circonférence, sur lequel on voit plusieurs maisons de gentilshommes, ornées dehors et dedans. Il y a là aussi des temples des idoles. Au milieu du lac, il y a deux petites îles où l'on voit dans chacune un très magnifique château ou palais dans lesquels on garde tous les ustensiles nécessaires à de grands festins. Car tous les citoyens donnent de grands repas et mènent là leurs invités pour les recevoir avec plus d'honneur. Il y a dans cette ville de Quincy des maisons très magnifiques. Il y a aussi dans chaque rue des tours publiques où chacun retire ses effets dans les incendies. Car cette ville a beaucoup de maisons de bois, ce qui fait qu'elle est sujette au feu. Les habitants sont idolâtres, ils mangent la chair de cheval, de chien et d'autres animaux impurs. Ils se servent de la monnaie du Grand Khan. Le Grand Khan y a mis une forte garnison pour la tenir en bride. Et, pour empêcher les vols et les homicides, il y a une patrouille de 10 hommes la nuit sur chaque pont. Il y a dans l'enceinte de cette ville une montagne qui soutient une tour, sur le haut de laquelle il y a des tables de bois que l'on y conserve. Les gardes qui font sentinelle toutes les nuits, dès qu'ils aperçoivent le feu en quelque endroit de la ville, frappent sur ces tables avec des maillets de bois, dont le bruit se fait entendre par toute la ville et réveille les habitants et les met en état d'éteindre le feu. On frappe aussi ces tables lorsqu'il arrive quelque sédition. Toutes les places de la ville sont pavées de pierre, ce qui la rend très propre. On y voit aussi plus de 3000 bains qui servent aux hommes pour se laver, car cette nation fait consister toute la pureté dans celle du corps. Cette ville est éloignée de l'océan de 25 milles à l'Orient. Il vient en cet endroit-là une infinité de vaisseaux de l'Inde et des autres pays. La rivière, sur laquelle on amène toutes sortes de marchandises, vient de Quincy à ce port-là. Comme la province de Manji est fort étendue, le Grand Khan l'a partagée en 9 royaumes, à chacun desquels il a donné un roi. Tous ces rois sont puissants, mais ils sont sujets du Grand Khan. C'est pourquoi ils lui rendent compte, tous les ans, de leur administration et lui payent un certain tribut. Un de ces rois demeure dans la ville de Quincy et commande à 140 villes. Toute la province de Manji contient 1200 villes, dans chacune desquelles il y a des garnisons mises par le Grand Khan pour tenir les peuples dans leurs devoirs. Les soldats ou gardes de ces villes sont comme le ramassis de plusieurs nations et tirés de l'armée du Grand Khan. Il y a dans cette province, et principalement dans celle de Manji, une grande attention pour le mouvement des astres, par le moyen desquels on observe l'horoscope des enfants le jour de leur naissance, remarquant exactement le jour et l'heure que l'enfant vient au monde et la nature de la planète qui présidait alors. Il se règle par ses jugements astrologiques dans toutes les actions de la vie et surtout dans leur voyage. C'est aussi une coutume en ce pays-là, quand quelqu'un meurt, que ses parents se couvrent de gros sacs et portent le corps mort en chantant. Ils peignent sur du papier des images de serviteurs, de servantes, de chevaux et de monnaies, et brûlent tout cela avec le cadavre, croyant que le mort jouit de tout cela réellement en l'autre monde, et qu'il aura autant de serviteurs qu'il y en a eu de pain sur ses papiers. Après cela, ils font sonner plusieurs instruments de musique, disant que leurs dieux recevront le mort en l'autre vie avec une pareille cérémonie. Il y a dans la ville de Quincy un palais fort magnifique où le roi Fakfur faisait autrefois sa résidence. Le mur extérieur qui défend ce château est de figure carrée et contient 10 000 de circonférence et est large à proportion. Dans l'enceinte du mur, il y a de beaux vergers qui donnent d'excellents fruits. Il y a aussi plusieurs fontaines et viviers remplis de poissons. Au milieu est le palais royal, dont nous avons parlé, qui est très ample et très beau, ayant 20 cours d'une égale grandeur, dans chacune desquelles 10 000 hommes pourraient se remuer. Toutes ces cours sont peintes et embellies royalement. Au reste, on compte dans la ville de Quincy 600 000 familles, en comptant pour chaque famille le père, la mère, les enfants, les domestiques, etc. Il n'y a qu'une seule église de chrétiens nestoriens. C'est aussi la coutume dans cette province et dans toute celle de Manji que chaque chef de famille écrive son nom sur la porte de sa maison, celui de sa femme et de toute sa famille, jusqu'au nombre des chevaux qu'il a. Et lorsqu'il meurt quelqu'un de sa famille, ou qu'on change de logis, on efface le nom du mort ou de celui qui a changé de lieu. Mais l'on écrit le nom d'un nouveau-né ou d'un enfant adoptif. Par ce moyen-là, on peut savoir aisément le nombre de tous les habitants de la ville. Les hôteliers écrivent de même sur leurs portes les noms des voyageurs et des hôtes qui logent chez eux et quel jour et quel mois ils sont arrivés. Chapitre 65. Des revenus que le Grand Khan tire de la province de Manji. Le Grand Khan exige tous les ans beaucoup du sel que l'on fait dans la ville de Quincy et dans son territoire. Il tire des autres choses, et surtout des marchandises, une si grande somme d'argent qu'elle est incalculable. Cette province produit une grande quantité de sucre et toute espèce d'aromates. Le Grand Khan reçoit 3,5 par 100 mesures d'aromates. Il en fait de même de tous les biens des marchands. Il tire aussi un grand revenu du vin, fait de riz et d'aromates. Les artisans, surtout d'une douzaine de conditions, lui rendent un certain profit. Il tire 10% des aunes de soie qui, dans la province de Manji, se font en quantité. Moi, Marco, j'ai une fois entendu faire le récit de tout ce que retire le Grand Khan de la province de Quincy chaque année et qui n'est que la 9e partie de la province de Manji. La somme montait, excepté le revenu du sel, à 15 millions d'or et 600 000 livres. Chapitre 66. De la ville de Tampingui. En partant de la ville de Quincy et allant vers le septentrion, on trouve continuellement de belles plantations et des champs cultivés jusqu'à ce qu'à une journée de chemin, on vient à la très belle et très remarquable ville de Tampingui, Chao Wingfu, chef-lieu du Chekiang. À trois journées de cette ville, allant toujours vers le septentrion, on trouve des villes et des châteaux en quantité et qui sont si près les uns des autres qu'on dirait de loin qu'ils ne sont tous qu'une grande ville. Il y a grande abondance de vivres en ce quartier-là. Il y croît aussi des roseaux, bambous, de la longueur de 15 pas et de 4 pommes de circonférence. Allant plus avant, et à trois journées de là, on rencontre une belle et grande ville, au-delà de laquelle, continuant toujours son chemin du côté du septentrion, on rencontre beaucoup d'autres villes et de châteaux. Il y a dans ce pays-là beaucoup de lions qui sont grands et féroces. Mais l'on n'y trouve point de moutons, ni dans la province de Manji. Mais il y a une grande quantité de bœufs, de chevreaux, de boucs, de porcs. À quatre journées de chemin, on rencontre une autre belle ville nommée Tianjiang, Sui Changheng, chef-lieu du canton du département de Chuqiu, qui est bâtie sur une montagne, laquelle montagne partage une rivière en deux parties qui prennent leur cours par des chemins tout opposés. À trois journées plus loin, on trouve la ville de Kugui, qui est la dernière de la province. Chapitre 67. Du royaume de Fugui. Ayant laissé derrière soi la ville de Kugui, on entre dans le royaume de Fugui, Fucheu, où, après avoir marché 6 jours, il faut aller par des montagnes et des vallées où l'on trouve beaucoup de villes et de châteaux. Ce pays-là produit en quantité tout ce qui est nécessaire à la vie. La chasse y est aussi abondante, tant pour les bêtes sauvages que pour les oiseaux. Il y a des lions en quantité. Le gingembre y croît là en abondance. Il y croît aussi une certaine fleur assez semblable au safran. C'est d'une autre espèce, quoiqu'on s'en serve au même usage. L'on mange de la chair humaine dans ce pays-là avec grand plaisir, pourvu que les hommes ne soient pas morts de maladie. Quand ils vont à la guerre, ils se font à chacun une marque au front avec un fer chaud. Il n'y a parmi eux que le général seul qui aille à cheval. Ils se servent de lances et de boucliers. Et quand ils ont tué quelqu'un de leurs ennemis, ils en boivent le sang et en mangent la chair, car ce sont des gens très cruels. Chapitre 68. Des villes de Quilenfu et Unquen. Après avoir fait les 6 journées dont nous avons parlé, on vient à une ville nommée Quilinfu, qui est grande et considérable, bâtie sur le bord d'une rivière qui passe près des murailles. Il y a sur cette rivière 3 ponts de pierre ornés de colonnes de marbre très magnifiques. Ces ponts ont 8 pas de largeur et 1000 de long. Cette ville a en abondance de la soie, du gingembre. Les hommes et les femmes y sont beaux. On y trouve des poules qui ont du poil au lieu de plumes, comme les chats. Leur poil est noir, mais elles pondent de fort bons œufs. Et parce que ce pays-là est rempli de lions, les chemins y sont fort dangereux. À 15 milles de cette ville, on en trouve une autre nommée Unquen. Il croît dans son territoire quantité de sucre que l'on transporte à la cour du Grand Khan, c'est-à-dire à la ville de Kambalu. Chapitre 69. De la ville de Fugui. À 15 milles plus loin, on rencontre la ville de Fugui, qui est la capitale et l'entrée du royaume de Kuncha, Fukien, qui est un des 9 royaumes compris dans la province de Manji. Il y a dans cette ville une très forte garnison pour défendre la province et les autres villes et pour réprimer les séditieux qui voudraient se rebeller contre l'empereur. Il passe à travers cette ville une grande rivière qui a bien 1000 de largeur, le fleuve Minkiang. Et parce que cette ville n'est pas fort éloignée de la mer Océane, il s'y tient une foire considérable où l'on apporte de l'Inde un grand nombre de perles et d'autres pierres précieuses. Il y a aussi du sucre en abondance et toutes sortes de vivres. Chapitre 70. Des villes de Zeytun et de Figui. Après avoir traversé la rivière ci-dessus, il y a 5 journées de chemin, on va à la ville de Zeytun. On ne trouve jusque-là ni ville ni château. Ce pays est abondant en tout ce qui est nécessaire à la vie. Il y a des montagnes et des forêts. Sur les arbres des forêts, on ramasse la poix. La ville de Zeytun est fort grande. Elle a un fort bon port où il vient une grande quantité de vaisseaux indiens chargés de diverses sortes de marchandises. Il y a un des plus beaux marchés qui soit au monde, car le poivre et tous les aromates qui vont d'Alexandrie dans tous les pays chrétiens sont transportés de cette foire à Alexandrie. Le Grand Khan tire un fort grand revenu de cette ville, car sur chaque vaisseau, il a un certain droit qui monte très haut. Peu s'en faut qu'il ne tire la moitié de chaque espèce de parfum. Il y a aussi en ce pays-là une autre ville nommée Figui, Tekwa, qui est considérable, surtout par les belles écuelles, porcelaines, que l'on y fait. Cette province a une langue particulière. Ce que nous avons dit jusqu'ici de la province de Manji suffira. Et quoique nous n'ayons fait la description que de 2 royaumes des 9 qu'elle comprend, nous avons jugé à propos de passer les autres sous silence pour parler de l'Inde, où nous avons demeuré pendant quelque temps, et où nous avons vu plusieurs choses admirables et que nous avons, pour ainsi dire, touché du doigt.